Bonjour, Loïc Tassé.
Bonjour, Bernard.
Il se passe quelque chose de très, très, très important. Là. Il y a une attaque lancée par les Russes, c'est ça?
Oui, les Russes qui ont commencé à bombarder la province d'Idleb dans le nord de la Syrie. C'était, on le savait qu'ils allaient faire ça depuis le 10 août. Ils avaient dit qu'ils avaient l'intention de faire ça. Et c'est une province qui est qualifiée par les États-Unis, par les Européens, d'une province pleine d'opposants à Bachar al-Assad. On dit ça d'une manière très pudique, parce qu'en vérité, écoute, ce sont des fondamentalistes religieux qui sont là-dedans, ce sont des islamistes.
Proches d'Al-Qaïda.
Proches de l'État islamique, qui se combattent entre eux, il y a plusieurs groupes. Et évidemment, Bachar al-Assad et les Russes veulent nettoyer ça. Les Américains disent non, il n'y en est pas question, ne faites pas ça. Parce que, évidemment, c'est des alliés à eux. C'est des gens qui ont combattu aux côtés des Américains contre Bachar al-Assad.
Et donc contre les Russes.
Et donc contre les Russes aussi, ce qu'on ne dit pas. Et ils disaient, écoutez, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas un corridor humanitaire pour laisser sortir les civils de là, etc. Vous savez, il y a 3 millions de personnes dans cette province. Il pourrait y avoir jusqu'à 800 000 déplacés. Mais là, les Russes et les Syriens disent, écoutez, si on fait ça, il n'y a rien qui nous garantit que les djihadistes qui sont là vont pas en profiter pour se sauver.
Et revenir nous attaquer.
Ou aller en Occident, soit dit en passant, en Europe et aux États-Unis. Alors, ils ont commencé les bombardements. Le fond du problème, comme tu le mentionnais, c'est toujours le même. C'est-à-dire que les États-Unis sont mécontents de voir que les Russes sont en Syrie. Ils essayaient de les faire sortir de là. Ils aimeraient bien contrôler la Syrie pour combattre le Hezbollah et pour combattre l'Iran aussi.
En le Hezbollah pro-iranien.
Pro-iranien, voilà. Et l'Iran qui est évidemment contre l'Arabie saoudite. Et en ce sens-là, ils font la politique d'Israël et la politique de l'Arabie saoudite. Je ne pense pas que les Américains interviennent immédiatement. Ils ont averti, mais...
Oui, Trump a fait une déclaration assez costaud en disant « j'invite... » En fait, c'était plus que j'invite. Il dit « vous ne devez pas ».
Vous ne devez pas le faire, mais il n'a pas menacé. Il n'a pas dit qu'il ferait quoi que ce soit.
Ouais.
Donc, on verra où ça va aller.
Mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Le pire, maintenant, c'est quoi?
Le pire, ce serait que les Américains décident de s'en mêler et de soutenir derrière ça ce qu'ils appellent les opposants à Idlib. Mais je pense pas que ça arrive. Ça m'étonnerait.
Parce qu'on risquerait de se retrouver avec une confrontation...
Ce serait très une confrontation entre les Russes et les Américains.
Russo-américaine.
Ce serait terrible. Ce serait le début d'un troisième conflit mondial.
Alors, ouais.
Bon, je pense pas que ça arrive.
On n'est pas là. Maintenant, juste, comment dire, en parallèle à ça... Il y a la déclaration d'Israël à l'effet qu'il pourrait attaquer des cibles iraniennes en Irak. Irak, ils ont déjà les avions de chasse israéliens ont déjà bombardé à de multiples reprises le territoire syrien.
Oui.
Et là, ils attaqueraient les Iraniens qui sont en Irak et qui auraient avec eux quoi, des armes balistiques?
C'est ça. C'est toujours la même chose, encore une fois. C'est que, évidemment, l'Iran est un grand ennemi d'Israël. Et donc, les Israéliens veulent neutraliser tous leurs ennemis à l'extérieur d'Israël qui pourraient les attaquer. Et l'Iran en fait partie. Sauf que quand tu fais ça, tu t'en vas attaquer le territoire irakien.
Ouais.
Et les Irakiens ne peuvent pas rester... complètement sans réagir à ça non plus.
Alors ça risque de créer un
effet de boule de neige.
Un engrenage.
Ouais. Enfin, il est déjà là, remarque, déjà, toutes les populations de la région détestent Israël. Ils vont le détester encore plus, c'est certain.
Même si le régime saoudien s'est beaucoup rapproché d'Israël, justement parce que les deux luttent
contre l'Iran. Exactement.
Voilà, exactement. Parle-nous un tout petit peu... Alors, il faut que j'explique ça aux auditeurs.
Ça vient de sortir, je t'ai apporté ça.
Voilà, Loïc est rentré dans le studio, il me tend des feuilles, il me dit « Regarde, c'est les premiers extraits du livre de Bob Woodward, le grand journaliste du Washington Post, celui qui a rendu public le scandale du Watergate là avec son collègue Bernstein. Là, il sort un livre intitulé « Fear de Trump in the White House », la peur Trump dans la Maison-Blanche. Donc, c'est des extraits qui viennent de sortir sur CNN. Et c'est quand même assez incroyable.
C'est incroyable ce qu'ils disent. Ils disent littéralement qu'ils ont peur de ce que Trump va faire et donc qu'ils lui volent des documents et qu'ils les cachent pour pas qu'il les signe.
Ça, c'est des conseillers de Trump.
Proches conseillers de Trump.
Qui ont parlé à Woodward.
Exactement.
Sur la confidentialité.
Bien sûr.
Et qui disent, il est tellement fou.
C'est le mot. Oui.
Qu'il faut l'empêcher de signer certains documents parce que ça pourrait nuire à la sécurité des États-Unis. Écoute, c'est pire que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. On a beaucoup entendu parler d'une Maison-Blanche dysfonctionnelle.
Oui, puis on disait qu'il y avait des conseillers qui le freinaient, on savait ça, mais qui lui volaient des documents pour qu'il les signe. Mais écoute, on est rendu à un niveau absolument. C'est inouï, là.
Et là, Woodward, là, je cite, là.
T'as lu plus l'article que moi. Moi, oui, je te l'ai apporté. J'ai lu les premiers paragraphes. C'est parce ça. Que je pense que c'est important.
Mais je cite CNN, là. C'est des extraits, là, du livre, donc, de Woodward. Et ce qui est dit là-dedans, c'est que Woodward, donc, après avoir discuté avec un certain nombre de conseillers présents et ex-conseillers, raconte à quel point son comportement est erratique, à quel point il est ignorant, à quel point il est menteur. Mm. Apparemment, John Kelly, qui est toujours son directeur de cabinet, chief of staff, le qualifie d'idiot. Il y en a un autre, James Mattis, qui est le secrétaire à la défense, qui dit que il a la compréhension d'un élève de 5e ou de 6e année en parlant de son président. Là. Il sert la présidence, il sert...
Les États-Unis.
Oui, il est secrétaire
c'est
du Pentagone.
C'est l'homme le plus puissant... Oui, oui. Ils sont en train de servir l'homme le plus puissant du monde. On en a souvent parlé. Tu sais. Moi, j'ai souvent dit qu'il souffrait
là,
de maladies mentales.
C'est des gens qui travaillent avec lui, qui disent qu'il a, dans d'autres mots, qu'il a l'intelligence d'un élève de 5e ou
c'est
de 6e
ça,
année.
D'un enfant de 10 ans. Et c'est le président des États-Unis.
Alors, c'est le livre de Woodward. Là, on vous a résumé vite ce qui vient de sortir.
On en reparlera demain. Oui. Je pense que ça va rebondir dans l'actualité. Et je suis certain que Donald Trump va répondre à ça.
D'ici ce soir. J'en suis absolument convaincu.
Je ne mettrai pas ma main au feu. Je pense qu'écoute, il y en a d'autres aussi. Oui. Il est en train d'attaquer son procureur général, Jeff Sessions.
À nouveau
encore. Oui. Parce que Jeff Sessions a porté des accusations contre deux représentants républicains, Christopher Carlin, pour délit d'initié à la bourse. Duncan Hunter et son épouse parce qu'ils sont accusés d'avoir utilisé des fonds de campagne électorale pour leurs dépenses personnelles. Et figure-toi que Trump a dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va nous nuire dans les élections présidentielles de mi-mandat le 6 novembre. S'il vous plaît, Monsieur Sessions. Je me suis dit, un instant là, c'est parce que le système de justice aux États-Unis est indépendant.
Supposé
être indépendant. Oui, c'est pas parce que t'es républicain qu'on portera pas d'accusation contre toi ou démocrate, ça n'a aucune importance.
C'est comme s'ils disaient, même s'ils ont commis des crimes...
Laissez-les passer.
Ce qui est important, c'est les élections, c'est pas les crimes.
Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que t'as déjà des gens au Congrès, t'as des sénateurs qui sont extrêmement mécontents de ça, qui disent, écoutez, là, on n'est pas dans une république de bananes. Qu'est-ce que vous faites? C'est complètement inacceptable.
Parlons vite de cette colère au Brésil après l'incendie du grand musée national. Il y avait des artefacts là-dedans qui étaient uniques au monde sur l'histoire de l'Amérique latine. Tout a brûlé.
En fait, 90% du musée a brûlé. Il y a, semble-t-il, une section qui n'a pas brûlé. C'est celle qui contenait, entre autres, les mollusques, ce genre de choses. Écoute, 200 ans évaporés. Il y a une bibliothèque là-dedans de plus d'un demi-million de livres. Qui a complètement brûlé aussi.
Et ça, c'est parce que l'édifice n'était pas à l'épreuve du feu.
C'était pas à l'épreuve
parce qu'ils avaient retardé des travaux de rénovation pour protéger.
En fait, c'est pire que ça. C'est que les budgets du musée ont été coupés depuis des années, de plus d'un tiers. Donc, il n'y avait pas d'entretien qui se faisait. Et c'est parce que le président brésilien n'aime pas la culture tellement. Il a coupé dans... Il voulait même abolir le ministère de la culture, c'est-à-dire. Et les Brésiliens se retrouvent sans musée. C'est une perte inestimable, c'est irremplaçable. Incroyable. Ils sont très choqués et donc ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Toute cette corruption, toute cette incompétence, ça mène là finalement et donc il y a un mouvement de colère en ce moment qui est complètement compréhensible dans la population brésilienne parce que c'est le patrimoine de l'humanité qui vient perdre quelque chose. C'est pas juste le Brésil, c'est l'humanité qui vient perdre quelque chose.
Absolument.
Et ils sont choqués et je crois que ça va avoir des incidences sur les prochaines élections au Brésil.
Et on raconte qu'une partie des sous qui devaient servir à rénover le budget, le musées ont servi plutôt à construire les stades pour toutes
sortes de choses.
Pour les Olympiques et le Mondial.
Oui, et puis pour rajouter encore là-dessus, cet été, dans le nouveau plan, on devait remplacer justement le système de sécurité contre les incendies. Mais ça avait été reporté. C'était pas fait. C'est pas des gros montants. Hein. On parle de 5 millions de dollars.
Aïe, aïe, aïe. Loïc Tassé, merci.
Un plaisir.
On s'arrête. Le monde de Paul Oud dans un instant.